Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs, vous écoutez le tout premier épisode de la saison 9 de Proxy Jeux et vous écoutez la chronique Jeux du mois. Je suis Benoît Fix. Et comme il paraît qu'on ne change pas une équipe qui gagne, je suis à nouveau accompagné pour cette saison de l'ami Cyrus. Salut Cyrus.
Salut BenoFX. Ah ben ça y est, on retrouve notre duo.
Tout à fait, enfin. C'est reparti après un été ponctué de hors-série et d'interviews du Festival des Bretzels et des Jeux. Et ben pour cette nouvelle année, on ne change pas non plus le format, puisqu'on revient avec notre classique jeu du mois. On va vous présenter deux jeux, chacun un, et puis on va essayer de réagir un peu au jeu que va nous présenter l'autre. Ce mois-ci, Cyrus va vous parler d'une petite exclusivité, puisque le jeu n'est pas sorti, ouais. C'est ça Cyrus ?
Alors effectivement, moi je vais vous parler de Keyforge. Donc Keyforge, alors le nom exact hein, c'est Keyforge Call of the Archons. Alors ça sera l'appel des archons en français, si je dis pas de bêtises.
Tout un programme.
Et de ton côté alors ?
Eh ben moi je vais présenter un jeu que j'ai eu l'occasion de bien poncer cet été. Il s'agit de Tréfuté, ou Ganz schön clever en allemand.
Donc on a sur les rails peut-être un futur gros hit et un jeu qui a été nommé au Spiel des Jahres.
Au Kennerspiel. Au Kennerspiel, tout à fait. Bah je te laisse commencer Cyrus.
Eh ben c'est parti, alors on y va. Donc je vais vous parler donc de Keyforge. Alors Keyforge c'est un jeu de Richard Garfield édité par FFG. Donc et sur lequel il y a pas mal d'illustrateurs qui ont bossé. Hein. D'ailleurs ils sont même pas crédités sur BGG si vous dire. Je sais pas exactement combien il y en a sur ce premier volet, mais voilà il y en a un petit paquet. C'est un jeu pour deux joueurs à partir de 14 ans pour des parties de 15 à 45 minutes et sa sortie est prévue courant du dernier trimestre 2018. Effectivement, on vous l'a dit en intro, le jeu n'est pas encore sorti. Malgré tout, j'ai eu l'occasion de l'essayer. J'ai eu l'occasion de l'essayer en fait au Bruxelles Game Festival. J'ai plutôt apprécié, du coup je me suis procuré quelques proxys donc j'ai pu approfondir un petit peu le jeu. Alors approfondir, on en parlera. Disons que j'ai exploré un aspect du jeu, on va dire une facette du jeu, pas forcément toutes les facettes. Mais voilà, donc
t'as fait un PNP pour essayer un peu tout ça.
Voilà exactement. Donc j'ai quand même fait 5 parties, bon c'est pas fou mais voilà. Faut en remettant dans le contexte que j'ai essayé le jeu il y a à peine 10 jours, bon ça va.
C'est pas mal.
C'est déjà pas mal.
Pour un jeu qui est pas sorti, c'est pas mal.
Ouais, c'est ça. malheureusement, vous aurez peut-être plein de chroniques finalement de ce jeu parce que on a vu aujourd'hui, alors aujourd'hui on est mardi 4 septembre, on a vu que FFG avait fait des envois de jeux à des reviewers français. Donc on sera peut-être pas les seuls sur le rail hein, donc peut-être que vous allez être complètement assommé d'infos sur Keyforge. Ouais, c'est ça. Désolé du coup malheureusement ce sera comme ça. Et alors je voulais faire un petit avertissement avant de commencer la chronique parce que je suis un ex-joueur de Magic. Ce jeu va être assez proche de Magic donc il est possible que j'utilise des termes qui s'en rapprochent. Alors bon je fais confiance à BenoFX peut-être pour me rattraper. Normalement voilà dans les notes que je me suis prises j'ai essayé d'éviter mais bon voilà il y en aura peut-être quelques-uns. Alors le principe du jeu. Donc c'est un jeu d'affrontement donc qui ressemble un peu dans les grandes lignes à Magic. Le principe c'est que vous avez un paquet de cartes et vous allez devoir battre votre adversaire en face.
C'est le même auteur d'ailleurs.
Et c'est le même auteur de Magic effectivement. Alors sauf que là on est devant un principe un peu différent parce qu'on a des paquets de cartes à collectionner et non pas des cartes à collectionner. Du coup Keyforge crée un nouveau courant, on peut le dire je pense, de jeux uniques. Et d'ailleurs FFG est en train de créer une gamme qui s'appelle Unique Game dans lequel Keyforge est je pense on peut dire le fer de lance, en tout cas le premier jeu qui va sortir.
Tout à fait.
Il y en a un autre qui est sur les rails.
Si vous avez écouté le hors-série de l'été de la Team Paris, on en a un petit peu parlé de cette gamme de jeux uniques que prépare FFG.
Oui, D'ailleurs, je ferai le lien à un moment parce que je zapperai peut-être une petite partie d'explication pour vous renvoyer vers cet épisode si vous l'avez écouté. On va essayer d'éviter de faire un peu doublon. Donc, on aura chaque joueur va avoir un paquet de cartes qui est unique dans sa composition. Alors, les tarifs annoncés sont de 40€ pour le starter kit. J'expliquerai un petit peu ce qu'il contient et 10€ pour les decks uniques. Et donc ce deck en fait il est généré aléatoirement par un système, par un algorithme, et il nous annonce 104 millions de milliards de milliards de combinaisons, ce qui est assez beaucoup. Peu, ouais. Voilà, donc effectivement logiquement avec ça vous devriez avoir un deck unique. Hein. Ce que je voulais également dire c'est que alors ce deck est unique, mais les cartes qui le contiennent en fait elles sont pas uniques. Hein. C'est
il y a dans plusieurs decks.
Il y a un pool de 350 cartes qui est prévu et voilà. Pour rentrer un peu plus dans l'explication, vous allez voir que le jeu, alors j'ai déjà parlé de Magic, mais je pense qu'on peut plutôt le rapprocher de Hearthstone. On va dire que il y a une évolution entre Magic et Hearthstone, hein, qui est assez évidente si vous avez déjà joué aux deux jeux. Hearthstone est, je dirais, une simplification de Magic, tout en conservant pas mal d'aspects. Là, je trouve qu'il y a encore une simplification supplémentaire, mais qui va amener de nouvelles choses. Le jeu va se composer de 7 maisons, donc factions, hein, ils appellent ça des maisons, c'est house en anglais. Chaque maison donc est composée de 50 cartes. Il y a un système, comme dans Magic et tous ces jeux de cartes à collectionner, de cartes communes, de cartes qu'on appelle unco, donc c'est des non communes, les cartes rares. Et il y a un système de cartes spéciales. Alors j'avoue que j'ai pas encore super bien saisi le truc. Je sais qu'il y a des cartes qui sont affiliées normalement à des maisons et qui peuvent se retrouver dans d'autres maisons.
D'accord.
Exceptionnellement. Donc je sais pas si c'est vraiment ça les spéciales ou si c'est encore autre chose. Bon après c'est un petit détail mais voilà. Et donc votre paquet de cartes lui va être composé de 3 maisons uniquement, qui ont chacune un peu des spécificités de jeu. Je vais pas rentrer dans le détail mais bon voilà, retenez ça. Globalement les synergies, moi ce que j'ai plutôt senti c'est que les synergies elles marchaient bien quand même plutôt à l'intérieur des maisons et un peu moins entre les maisons. Voilà. On sent qu'il y a quand même des effets qui sont faits pour marcher à l'intérieur d'une même maison.
De toute façon, le système de jeu est très axé sur l'utilisation d'une maison. Enfin, à chaque tour, tu peux utiliser qu'un seul type de maison, c'est ça ?
Voilà. Donc ça, c'est une des premières spécificités, effectivement, qu'ajoute Keyforge par rapport aux autres jeux de ce type-là, c'est que il n'y a pas de système de mana. Donc là, si on rentre un petit peu dans le comparatif avec Magic, typiquement, il n'y a pas de système de mana, il n'y a pas de coût en fait des cartes. Même dans Hearthstone, ils avaient un peu simplifié ce système parce qu'il n'y avait pas de pose de terrain qui amenait des manas, machin.
En
voilà,
gros, on a de l'énergie qui augmente de 1 à chaque tour et qui permet de poser des cartes de plus en plus fortes dans Hearthstone.
Ouais, voilà. Alors moi, j'ai pas beaucoup joué à Hearthstone. Hein. J'ai essayé au départ et puis après, j'ai un peu lâché. Donc la première spécificité effectivement c'est qu'il n'y a pas de coût des cartes. Du coup on va invoquer une maison et on va pouvoir jouer toutes les cartes qu'on veut de cette maison, mais uniquement les cartes de cette maison. Et pareil pour les cartes qui seraient déjà posées en jeu, on va pouvoir utiliser que ces cartes qui sont déjà, enfin que les cartes de la maison pour celles qui sont posées. On va pas pouvoir du tout utiliser la faction, d'autres factions.
Il y a un système aussi de créatures, sorts, etc. comme dans Magic ou...
Oui. Là on retrouve vraiment des similitudes. Okay. Il y a des créatures, il y a des alors ils appellent ça des actions, mais bon effectivement on peut assimiler ça à des rituels. Dans le principe de simplification, on retrouve aussi le fait que tu t'es plus des phases découpées. Comment dire, dans Magic je crois que tu pouvais quand tu fais tes combats tu fais tous tes combats d'un coup et ensuite tu fais j'avoue je me rappelle même plus, pourtant j'ai joué un paquet j'ai beaucoup joué à Magic quand même hein, mais je crois que tu pouvais jouer des rituels avant et après.
Oui,
mais
tout à fait.
Pas pendant en gros quoi. Enfin bon, alors c'était des éphémères voilà. Bon. Bah, les éphémères par exemple ça n'existe pas voilà.
D'accord.
Alors ça enlève quand même un certain intérêt au jeu, faut bien l'avouer, parce qu'il n'y a pas de réaction non plus du coup pendant le tour de l'autre.
D'accord, il
n'y
a pas de carte
passif,
qu'on peut jouer autour de l'autre.
Ouais, mais ça je crois que dans Hearthstone c'était le cas aussi. Hein.
Hearthstone c'est le cas aussi, par contre t'as un système quand même de cartes que tu mets qui s'appelle des secrets je crois, qui s'activent quand l'autre fait un certain truc. Enfin, tu vois, c'est genre un piège qui est posé. Et donc, toi, tu vas rien faire, mais automatiquement, quand l'autre va faire une certaine action, il y a le secret va se dévoiler et il va se passer quelque chose.
Ok, ok, d'accord.
Mais il faut les avoir posés avant, quoi. Tu peux pas les sortir de ta main pour contrer quelque chose.
Oui, c'est une menace en quelque sorte, quoi.
C'est ça.
Dans les autres variations, dans Keyforge, le deck est assez petit. Hein. Il y a 36 cartes dans le deck. Et donc, quand vous arrivez au bout, en fait, bah, vous remélangez votre défausse et vous rejouez, quoi. Donc, il n'y a pas de fin sur l'épuisement du paquet. Ça aussi, ça enlève tout un pan de, bon, après, dans Magic, franchement, pour arriver, les jeux meules, c'était pas non plus, jeux meules, voilà. Jeux meules, c'est les jeux qui, dans leur principe, visaient à faire en sorte que le paquet adverse devienne vide. Donc, le principe, c'était de bloquer au maximum le jeu de l'adversaire jusqu'à épuisement de son paquet, avec des cartes qui permettaient justement de virer des cartes du paquet adverse. Donc ça, par exemple, ça c'est des choses qu'on verra pas, quoi, a priori, dans Keyforge. On peut tenter après donc beaucoup de parallèles faisables avec Magic, Hearthstone. Moi, j'ai pas joué à Netrunner, qui est un des gros jeux de cartes à collectionner aussi de Richard Garfield. Enfin, de toute façon, si je dis pas de bêtises, il en a fait 3, hein. Magic, Netrunner, et donc maintenant, Keyforge.
Oui, tout à fait.
Moi, j'ai jamais joué à Netrunner, je sais pas toi.
Moi non plus, mais je sais que Fenduel conseillait fortement dans leur hors-série.
Ouais.
Mais non, j'ai jamais joué à Netrunner, malheureusement.
Ouais. Bon, dans Netrunner, il y a un aspect asymétrique. Il y a vraiment des conditions de victoire différentes des deux parties. Ça non plus, on le trouve pas. Enfin, ça, c'est vraiment un aspect encore plus complexe. Un Netrunner, c'est quand même encore un niveau au-dessus de Magic.
Fenduel disait qu'il y avait un aspect bluff aussi dans Netrunner, un petit peu.
Oui. Ouais. Oui, parce que tu vas poser des pièges aussi, des choses comme ça, et du coup, ça peut être des leurres en fait. Des choses comme ça. Bon, après, j'ai jamais joué, mais je connais quelques principes, quoi. Moi, j'ai rapproché aussi ce jeu-là dans sa démarche, plutôt dans sa démarche game design de 504. Alors, ça peut paraître un peu abscon comme ça.
504 de Friedman Freeze.
Oui, voilà, merci. 504 de Friedman Freeze, oui, qui était un jeu aussi très conceptuel dans lequel il avait créé 5 règles majeures, on va dire.
C'est ça.
Et selon l'agencement de ces règles, le jeu devenait différent.
Oui, il y avait en gros une mise en place, un corps, un objectif de victoire. Enfin, il y avait plusieurs. Il y avait un livret en fait avec un peu comme les livres des trucs à voler avec 3 ou 4 niveaux, je crois. Et en fonction de vous faisiez un peu, vous arrangiez les volets comme vous voulez, un peu au hasard, et ça donnait une règle unique parmi 504 à chaque fois, quoi.
Alors là, on n'a pas des règles qui sont uniques comme ça. C'est le deck qui lui est unique. Et tout comme je suis pas certain que Friedman Freeze avait vraiment testé les 504 combinaisons à fond. J'en doute fort. Hein, je pense pas qu'il ait fait 100 parties des 504 combinaisons. Soyons honnêtes. Richard Garfield n'a pas testé tous les decks possibles et imaginables.
Ça en fait beaucoup, parce que t'avais 504 milliards de.
Alors vous me direz, forcément, c'est pareil avec Magic, mais Magic, il y a tout un metagame autour. On verra qu'il n'est pas complètement oublié dans Keyforge, mais voilà, moi j'ai le sentiment qu'il y a une démarche qui est quelque part un peu approchante, où on crée un peu des trucs comme ça aléatoires, et on va voir un peu ce qui se passe, quoi. C'est-à-dire que il va laisser son jeu vivre, puisque finalement chaque jeu est unique, et voilà, donc c'est
je pense qu'il y a quand même eu un gros travail sur le pool de 350 cartes pour qu'il n'y ait pas de trucs complètement incompatibles ou complètement
Ah oui, je pense qu'effectivement ils ont dû regarder un peu les cartes les unes par rapport aux autres, voir s'il n'y avait pas des combos de cheatés, etc.
Ils ont dû équilibrer un peu l'ensemble, quoi, de toutes les cartes.
Oui, je pense effectivement, enfin, les cartes une à une, si tu veux, elles ont un système d'équilibre. On sent qu'il y a un système d'équilibre sur les cartes. T'as des cartes qui sont puissantes, elles vont avoir une contrepartie, toi, ce genre de choses, quoi. Mais toi, ils ont prévu que le jeu puisse, entre guillemets, leur échapper.
Oui.
C'est-à-dire que dans les règles, il y a un système, par exemple, pour gérer les boucles infinies. Ils ont dit, bah voilà, si jamais ça arrive, vous êtes limité à 6. Tu vois, enfin,
c'est trop bien, quoi.
Ouais, donc là, c'est prévu. Et, si vous voyez que votre deck est vraiment, le deck adverse est vraiment beaucoup plus fort que le vôtre, si tu joues toujours avec les mêmes decks, au bout d'un moment, tu peux te rendre compte qu'il y a un déséquilibre, quoi. Voilà, bah, c'est assumé. Et du coup, ils ont créé un système de handicap qu'ils appellent la chaîne, et en gros, qui pénalise la pioche des joueurs. En gros, au lieu de normalement, on a une main de 6 cartes, et puis ben, si t'as de la chaîne, voilà, comme ils disent, bah tu vas piocher moins de cartes, t'auras moins de 6 cartes dans ta main. Et,
d'accord.
Ça pendant un certain nombre de tours, tu vois. Donc voilà, ils savent que le jeu quelque part peut leur échapper, et mais ils l'ont prévu du départ. Ça, je trouve la démarche plutôt intéressante. Bon, avec tout ça, j'ai pas encore parlé vraiment de comment ça se jouait, mais bon, je vais finir un peu sur les principes globaux. Moi, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que on a parlé de cartes communes, de cartes non communes, de cartes rares. De ce que j'ai vu pour l'instant, j'ai pas le sentiment en fait que les cartes rares soient spécialement gros billes, tu vois. Enfin, quand tu regardes Magic ou enfin dans Hearthstone, moi j'ai très peu joué, mais toi tu vas me dire, mais enfin je crois que les cartes rares c'est effectivement c'est des trucs bourrins, quoi.
Ouais, plus c'est rare, plus c'est bourrin généralement.
Ouais. Et bah là j'ai pas ce sentiment là. Tu sens que c'est plutôt des cartes qui effectivement, si elles sont mises dans une bonne synergie ou dans une bonne orientation de jeu, elles vont pouvoir
elles sont pas puissantes de manière intrinsèque, c'est dans une certaine configuration qu'elles vont le devenir, quoi.
Oui, c'est ça. Moi c'est plutôt ça que j'ai senti. Et en revanche, toi, toutes les cartes communes, bah tu sens qu'il y a des cartes qui sont enfin limite tu te dirais elles sont cheatées, quoi. Enfin elles le sont pas, mais tu te dis putain, mais c'est super puissant. T'as beaucoup de cartes qui sont contextuelles, mais t'as des cartes c'est genre les bam détruisez toutes les créatures, quoi. Ça c'est une carte commune, quoi, tu vois. Bon, bah si t'es vraiment en déséquilibre et que t'as vraiment peu de créatures, voilà, c'est super fort, quoi.
Ouais. Mais est-ce qu'il y a des cartes du coup communes qui sont dans tous les decks ou vraiment pas? C'est vraiment un mélange des 350 cartes?
Ah non, c'est vraiment un mélange.
D'accord. Il y a aucune carte qui se retrouve dans tous les decks ou?
Alors j'ai pas regardé si dans une maison donnée par exemple t'as des cartes que tu retrouves tout le temps, mais je pense pas.
D'accord.
Ce que j'ai compris, alors je mettrai mes sources dans le billet, hein, parce que
comme ça si tu racontes des conneries,
ouais, si je raconte des conneries, voilà, vous pourrez aller voir où était la connerie. moi de ce que j'ai lu, l'algorithme a été géré de façon à ce que les cartes qui ont un effet de synergie se retrouvent pas toutes seules dans le paquet. Du genre, je sais pas, des cartes qui boostent les créatures, par exemple. Bah, vous allez avoir forcément des créatures dans votre paquet, quoi.
Oui, sinon ça a pas de sens. Ouais.
Voilà. De toute façon, je pense que typiquement des créatures, je pense qu'il y en a dans tous les paquets. Tu vois, ils ont dû équilibrer plus ou moins créatures, cartes actions, donc les espèces de sorts. Enfin, tout ça, ils ont dû faire en sorte qu'il y en ait, quoi. Dans tous les cas. Mais on va dire, par exemple, des cartes qui boostent un type d'unité. Les unités, elles ont des espèces de petits tags, hein, des affiliations, on va dire. Bah, si ça doit booster tel type d'unité, vous allez forcément en avoir dans votre paquet. Voilà, c'est ce qui est dit. Mm. Bon, d'expérience, j'ai fait une partie avec un deck, par exemple, on a vérifié. Il y avait une carte, putain, mais c'est trop fort. Tu vas rechercher toutes les cartes d'un certain type, toutes les créatures d'un certain type dans ta défausse. C'était des Niffle, tu vois. Je sais pas trop ce que c'est, mais hein. J'ai tous les Niffle dans ta défausse. Putain, c'est trop fort, ça. Et tu les remets dans ta main. Donc, potentiellement, si c'est la faction que tu viens de jouer, tu la rejoues derrière, quoi. Ah, regarde. Ah mince, elle en avait. Enfin, c'était ma femme qui jouait avec le paquet. Elle en a qu'une dans sa défausse. Ah merde, c'est dommage. Putain, le paquet était plus très épais, tu vois. Bon, du coup, on regarde par curiosité. Mais en fait, il y en avait qu'une.
Ah, d'accord.
Tu fais, hein. Bon, ok. elle est potentiellement forte, cette carte, mais le deck n'a pas été construit. En tout cas, pas autour de cette carte-là, quoi. Bon.
Bah, en fait, comme il est construit aléatoirement, oui, il a pas été construit.
Bah voilà, c'est ça. Donc, enfin, tout ça pour dire que l'algorithme, ok, ils disent, bon, bah, on s'assure que il y ait des synergies qui se créent. Bon, il y a quand même des limites, quoi. Tu vois, ils ont pas mis tant de paramètres que ça pour faire que le paquet il marche vraiment super bien, visiblement. Bon. Donc voilà. Alors, pour expliquer quand même un peu rapidement les grands concepts du jeu, sans rentrer forcément dans le détail des règles. Là, il n'est pas question de tuer son adversaire dans Keyforge, il est question de forger trois clés, d'où le nom du jeu. Pour forger les clés, il faut avoir 6 ambres au début de son tour, en fait, donc ce qui permet à l'autre de contrer pendant son tour. Et cette ambre, en fait, ça va être un système en gros de pions qu'on va comment dire. Bah, l'ambre, en gros, vous allez avoir tout un tas de systèmes qui va vous permettre de voler l'ambre, de capturer l'ambre sur vos créatures, sachant que si la créature est détruite ensuite, ça rend l'ambre. En gros, voilà, il y a des systèmes comme ça de pas de vases communicants, mais tu vois, enfin de déplacement de cette espèce de ressource, si tu veux, qui va servir à forger les clés. Ouais. Il y a toujours des équilibres qui vont se créer. Ça, j'ai trouvé ça assez intéressant. Parce que du coup, on tombe pas dans un truc un peu basique avec des points de dégâts à faire en face, quoi. Mmh. Ça permet de créer d'autres dynamiques dans le jeu, en tout cas. Donc ça, j'ai trouvé ça pas mal. Bref, le principe il est autour de ça, quoi. Il est souvent autour de l'ambre, on va dire. Vos créatures, en fait, elles servent à produire de l'ambre. C'est-à-dire qu'en gros, à son tour de jeu, on peut faire différentes choses avec ces créatures. On peut soit les utiliser pour produire de l'ambre, en gros on les envoie au champ, je sais pas, ou à la mine, soit on va pouvoir attaquer les créatures adverses, dans le but effectivement que...
D'éviter qu'ils fassent de l'ambre.
Voilà, exactement, t'as tout compris.
Ok, on n'attaque jamais le joueur en fait.
Non, voilà, t'attaques pas le joueur, et du coup ça crée des dynamiques différentes, si tu veux, le fait d'avoir plein de créatures devant soi n'est pas forcément une fin en soi. Alors c'est pratique pour créer de l'ambre, on est d'accord, mais il y a d'autres systèmes après qui permettent de...
Oui, alors que dans Magic ou dans Hearthstone, même le contrôle du board, en fait, enfin du terrain avec les créatures est assez important, quoi. Donc là c'est moins important, c'est moins un élément important, le contrôle du board.
Ouais, exactement. Moi je me suis déjà retrouvé dans des configurations où, typiquement la partie que j'ai faite hier, j'avais beaucoup de créatures sur le terrain, mais en fait j'arrivais à rien en faire parce qu'il y a des effets pour les neutraliser, ce genre de choses, quoi, tu vois.
Ouais.
Alors là, une des spécificités aussi de Keyforge, c'est que alors je l'ai pas dit, mais bon, là, à la limite je vous renvoie vers l'hors-série où Fendwell en parlait pas mal. Donc le principe de deck unique et aussi l'idée qui était derrière de Richard Garfield. Dans Magic, on construit son deck, donc il y a vraiment tout un aspect à côté du jeu qui est très fort.
Qui est plus fort même que la partie en elle-même.
Clairement, enfin, en tout cas, on passe plus de temps à créer des decks en dehors de la partie, quoi. Voilà. Dans Keyforge, justement, on exclut toute cette partie-là. Et cette partie-là, moi, enfin, c'est là que je suis complètement la cible, en fait, de ce genre de jeu, parce que Magic, j'ai beaucoup joué à un temps où j'avais le temps de construire des decks. Aujourd'hui, j'ai plus le temps de construire des decks, de m'investir dans ce genre de trucs. Et là, en fait, on te fournit un deck tout fait et roule, quoi.
Ouais, je trouve ça génial aussi, parce que c'est vrai que c'était très exigeant, en fait, la construction d'un deck Magic. Même dans Hearthstone, c'est assez exigeant si tu veux réussir à gagner et à être un minimum compétitif. C'est super exigeant, quoi, la construction de deck.
Et du coup, le revers de la médaille, c'est que le jeu, il est plus opportuniste, en fait, que Magic. Dans Magic, t'as vraiment, toi, tu construis des choses pour qu'elles s'agencent ensemble. Là, en gros, tu vas souvent te retrouver quand même, si t'as une main de 6 cartes, tu vois, si t'as 4 cartes d'une maison dans ta main, il y a quand même des chances que tu invoques cette maison, tu vois.
Ouais.
Après, pour autant, il y a quand même des dilemmes qui peuvent se créer, parce que t'as des cartes qui peuvent être sur le jeu, donc qui ont des effets, hein, et comme tu dois jouer que les cartes de la maison, comme pour celles qui sont sur le jeu, c'est comme pour celles qui viennent de ta main, il faut qu'elles appartiennent à la maison que t'as invoquée. Si tu veux, au début de la partie, tu vas avoir assez peu de choix, mais en cours de partie, le choix va revenir.
D'accord.
Ça, c'est... voilà. Après, l'aspect opportuniste, il est aussi dans la découverte des paquets. C'est-à-dire qu'au début, tu vas découvrir ton paquet, tu sais pas forcément ce qu'il y a dedans. T'as une liste, hein, avec la liste des cartes. Donc quand tu connais vraiment, si tu t'investis dans le jeu, etc., il se peut que comme à Magic, tu connaisses par cœur toutes les cartes. Et donc tu sois capable d'analyser un petit peu ce que peut faire ton paquet. Mais si on se place d'un point de vue du joueur occasionnel, on va vraiment se retrouver dans une situation de jeu à l'opportunisme, enfin à l'opportuniste, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, tu vas plutôt pratiquer un jeu opportuniste en tout cas. Et même quand tu vas connaître ton jeu, bon ben voilà, tu vas peut-être essayer d'aller de faire marcher des choses entre elles. Donc tu vas peut-être jouer un peu moins automatique, enfin un peu moins automatique, en tout cas un peu moins guidé par le nombre de cartes d'une faction. Mais tu vas, ça sera un autre type d'opportunisme que si tu veux, c'est l'opportunisme de. Je sais pas comment dire, mais
oui, mais en fait oui, le fait de bien connaître ton deck va te permettre en fait de, même si c'est pas toi qui l'a construit, etc., tu sais qu'une carte marche bien avec l'autre, donc plutôt que la jouer tout de suite, tu vas attendre d'avoir l'autre carte en main,
voilà,
pour la jouer. Et tu vas beaucoup plus jouer avec la connaissance du deck, avec en temporisant, en essayant de te faire la main la plus puissante et celle qui te propose le plus de combos possible, plutôt que de jouer en fonction de la maison que t'as en majorité dans ta main, quoi.
Voilà, t'as compris ce que je voulais dire, que j'ai très mal expliqué. Bah, typiquement, tu vois, ces cartes rares qui marchent avec des synergies, bah là, tu sais qu'il faut réussir à les jouer au bon moment, quand le contexte est là, pour pas te faire péter la carte en question, à un moment où ça servirait pas, quoi. Bon, je m'étais noté pas mal de trucs, j'ai dû en sauter une partie. Donc l'équilibre, j'en ai un peu parlé. L'équilibre du jeu, il est pas complètement là, mais bon, c'est assumé.
C'est assumé, ouais. Bah après, dans Magic, j'ai envie de te dire qu'il était pas forcément là non plus, puisque ça dépendait vraiment des personnes
exactement.
Qui constituaient le deck, hein. Moi, je sais que je me suis fait rouler dessus 2-3 fois quand j'ai voulu jouer avec des potes qui étaient à fond dedans depuis bien plus longtemps et bien plus fort que moi.
Bien plus riche.
Bien plus riche, ouais. Ou, en tout cas, qui dépensaient tout leur argent là-dedans. Et voilà, c'était pas équilibré parce que je me faisais rouler dessus, quoi.
Après, voilà, donc c'est assumé. Il y a le système de chaîne pour le contrebalancer. Moi, je suis pas super convaincu par le système de chaîne. Alors, pour le coup, on l'a pas vraiment exploité parce que moi, j'ai toujours joué avec des decks différents, du coup. Sauf une fois. Mais bon, quand tu sais, à part avoir joué 10 fois,
c'est pas un truc
fois,
qui c'est pas un truc qui se déclenche automatiquement quand il y a une personne qui enchaîne trop de trucs. C'est un truc, c'est en fonction, c'est toi qui choisis en fonction de comment tu estimes la puissance du deck. Du coup, ça a ses limites, ouais, effectivement.
Alors tu as des cartes qui te donnent de la chaîne.
D'accord.
Parce qu'elles sont fortes et du coup, ça te dit,
donc
tu prends 3 chaînes, quoi.
Ouais, donc, ok. Voilà.
Alors 3 chaînes, pour expliquer un petit peu quand même quelques aspects du jeu, si tu prends 3 chaînes, en fait à la fin de ton tour tu baisses d'une chaîne, et en gros tant que t'es dans une fourchette, on va dire tous les 5 à peu près, ou tous les 6, je sais plus, tu perds une carte dans les 6 cartes que t'es censé avoir.
D'accord.
Et ça aussi c'est une différence par rapport à Hearthstone et Magic, c'est qu'à la fin de ton tour. Et donc c'est à la fin de ton tour aussi, ça c'est une différence. Bon, ça va dans le mécanisme global du jeu, mais c'est pas fondamental, on va dire. À la fin de ton tour, donc tu repioches jusqu'à avoir 6 cartes. Donc si t'as joué 5 cartes, tu vas vraiment piocher 5 cartes.
Oui,
tu
peux vraiment avec une seule carte
beaucoup,
en main, quoi.
Et tu peux défausser des cartes. Alors, t'es pas les cartes de la maison en question que t'as appelé, tu peux les jouer ou les défausser. C'est-à-dire que si tu penses qu'elles te serviront pas prochainement, bah tu les défausses. Ça te permet de piocher une autre carte.
Et si ton deck est vide, il se passe quoi du coup?
Tu remélanges la défausse.
D'accord. Ouais, donc ça c'est une grosse différence aussi. Et c'est des decks de combien de cartes?
36.
Ok, donc c'est plus petit qu'un deck Magic, quoi.
Alors j'ai pas compris parce que sur les paquets c'est marqué 37, mais il y a la carte de l'Archon, il y a la decklist, donc du coup ça ferait 38. J'ai presque marqué 37.
Ok.
J'ai pas compris. J'ai pas cherché à comprendre. Mais là peut-être que la decklist, alors comme moi j'ai joué avec des au BGF, hein, c'était des proxys, peut-être que la decklist est au dos normalement de l'Archon.
D'accord.
Ce qui expliquerait du coup
pourquoi c'est 37.
La carte de l'Archon, pourquoi c'est 37. Bref, un détail. Autre truc que j'ai sur lequel je suis pas forcément convaincu. Je reviens sur la chaîne. Ce que j'ai pas expliqué, c'est que il va y avoir une application qui devrait arriver au moment de la sortie du jeu, qui permet de référencer le deck et a priori les parties également. Voilà, on a pas beaucoup d'infos là-dessus. Et du coup, ton deck va gagner entre guillemets en valeur et si j'ai bien compris, l'application, elle pourrait entre guillemets t'imposer de jouer avec de la chaîne.
D'accord. En gros, si c'est un deck, tu dis que t'as que des victoires avec ce deck, ben il va imposer automatiquement tant de chaînes sur
c'est
la partie,
ça.
Quoi.
Mmh.
D'accord.
Mmh. ce qui pourrait intervenir dans les tournois. Bon, j'en reviendrai un peu plus tard. Cette chronique va être très longue.
C'est pas grave,
j'irai vite. Et autre truc que je trouve pas super fou dans Keyforge, c'est les illustrations. Moi, je les trouve assez conventionnelles, en fait. Voilà, c'est pas moche du tout. Hein. C'est joli, hein. Mais voilà, je trouve que dans Magic, il y a eu un peu des choses très très extrêmes, un peu dans tous les sens du terme. Là, j'ai l'impression qu'on est sur quelque chose d'un peu plus conventionnel.
C'est plus coloré déjà, non, que Magic de manière générale.
Oui,
enfin, j'ai eu l'impression dans les images que j'ai vues que c'était assez coloré, quoi.
Après, cela dit, moi j'ai pas joué à Magic depuis longtemps, donc ça a peut-être aussi changé. Hein.
C'est vrai, j'aime pareil, les nouvelles éditions, je sais pas trop à quoi elles ressemblent.
Ouais, c'est joli pour autant, voilà, c'est de la. Oh, j'ai pas dit, mais on est dans un univers complètement fantasmé, hein. Voilà, on est des archons, on cherche le savoir, et donc il faut forger trois clés. Voilà, il y a des inspirations, je vous renvoie vers une interview de Richard Garfield que je mettrai en lien. Il explique c'est pas dans l'interview, c'est dans un pas enfin, si c'est une interview mais écrite, pardon, sur le site de FFG où il explique les inspirations des différentes factions. Voilà.
D'accord.
Mais bon, le thème, voilà, enfin bon, c'est on va assez vite oublier quand même. Hein. Y a des petits textes d'ambiance, tout ça. Bon, en plus, moi, j'ai joué en anglais, donc j'ai pas trop lu les textes d'ambiance. Et puis avec des photocopies, donc c'est pas toujours de super qualité. Donc le texte, des fois, tu te penches un peu pour lire déjà le texte qui sert au gameplay. T'as déjà du mal des fois. Donc, bon. voilà. Sinon, qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? Au niveau interaction, bah forcément ça va, quoi, hein. C'est un jeu d'affrontement, donc alors même si on fait pas de dégâts directs, c'est quand même pas dans ta gueule, quoi, parce que tu vas voler l'ambre, tu vas vraiment tu vois, enfin, t'as beau pas faire de dégâts directs,
oui, n'empêche que t'es un contre un, donc forcément tu veux faire perdre l'autre, quoi.
Voilà, c'est ça. T'as tout compris. C'est pas du tout un jeu dans lequel on joue dans son coin, quoi. Ce que j'ai trouvé en termes de sensations aussi qui était assez intéressante, c'est sur les différentes maisons donc que tu vas invoquer, il y a une sensation un peu de ta maison pendant une fois que tu commences à être un peu installé, en fait, il y a des maisons que tu veux jouer régulièrement si tes créatures elles restent en place, tu vois. Mais au bout d'un moment, tu sens que ça bascule.
Oui, parce que tu vas épuiser les cartes de cette maison.
C'est
quoi.
Ça. Au bout d'un moment, l'adversaire, il va essayer de te les péter quand même, tes cartes, parce qu'il voit que ça fait deux tours que tu les utilises. Et là, il y a un moment où il va falloir un peu switcher, peut-être sur une autre maison, ou tu vois, sur une autre technique.
Ouais.
Et ça m'a fait penser à Small World. Tu vois, le principe de déclin des... oui. Ouais. C'est par un sentiment fort, comme dans Small World. Hein, où dans Small World, tu sens bien qu'à la fin de ton tour, il y a un moment, il y a un vrai choix à dire... je passe en déclin ou je passe pas en déclin. Là, c'est pas ça, mais il y a un petit sentiment qui ressemble un peu à ça, quoi.
Ouais, où tu sens que ça s'essouffle et que tu dois switcher sur.
Ouais,
sur une nouvelle
c'est
maison,
ça, qui vaut peut-être mieux switcher sur notre. Toi, t'as ce petit dilemme de dire, ok, est-ce que j'exploite encore ces créatures-là qui sont déjà en jeu et qui donc tu vois tu peux faire quelque chose avec, ou est-ce que je dois aller mettre d'autres cartes en jeu? Qui auront, comme dans Magic ou dans Hearthstone, je crois que c'est pareil, t'as un système de mal d'invocation, ils appelaient ça,
oui,
dans Magic,
ouais,
et que tu peux pas utiliser tout de suite tes cartes, quoi. Faut
non,
t'attendre le
pas,
tour d'après.
Ouais, tout à fait.
Voilà. Au risque, du coup, bah, de te les faire péter entre les deux, quoi. Voilà. Voilà. Et oui, donc pour revenir au côté paf dans ta gueule, clairement, le public cible, c'est le joueur de Magic, enfin c'est le mec comme moi, quoi, qui a joué beaucoup à Magic et qui aujourd'hui veut plus s'investir dans la création d'un deck. Pour autant, si on a envie, on peut hacker tout à fait le système, mélanger ses cartes. Voilà, on n'ira pas jouer en tournoi avec, hein, mais on peut tout à fait s'amuser à créer des paquets, hein. Alors, je veux dire, il faut que tu y a entre guillemets des règles à respecter. Si tu vas prendre que trois factions, parce que de toute façon sinon c'est, enfin si t'en prends moins c'est complètement cheaté, parce que tu vas mettre je sais pas combien de cartes par tour. Si t'en prends plus, ben forcément ça va plutôt t'handicaper. Mais voilà, si tu restes avec 3 maisons et que tu veux mélanger des paquets, après tout, pourquoi pas, en fait. Hein,
Après, Fenduel disait aussi que les d'autres cartes vont être différents pour chaque paquet. Donc, si tu fais des mélanges, tu verras que c'est pas... Tu
oui,
verras que c'est
oui,
pas
mais
un
si
deck.
Tu joues, puis si tu joues avec des amis,
oui, tu peux le faire. Ouais,
tu t'entends, tu peux tout à fait mélanger. Tu peux prendre ton deck et moi le mien, et puis dire tiens, je te passe telle faction de mon deck et toi tu me passes telle autre, tu vois.
Ouais, tout à fait.
Tout à fait possible. Hein.
Oui.
Alors effectivement, les dos sont différents. Ouais, moi j'ai pas parlé de tout ça, mais il y a des aspects techniques qui sont arrangés pour avoir. Il y a un nom d'archon qui est généré automatiquement, donc ça promet des noms à coucher dehors.
À coucher dehors, ouais.
C'est clair. Et puis l'image aussi du coup est générée sur base, j'imagine, de briques, voilà, qui doit plus ou moins sûrement être fonction des cartes aussi qui sont dans le paquet. Je sais pas, je sais pas exactement comment tout ça s'est fait, mais en tout cas, c'est impressionnant de voir ce jeu arriver avec toutes ces petites choses là qui sont à côté finalement, mais ouais, qui font pas le jeu en lui-même. Mais c'est quand même, c'était pas simple, quoi.
Ouais, à mettre en œuvre, ça a dû être un sacré challenge.
Oui. Et ils se sont même assurés de reprendre le nom de l'archon, il est marqué à l'avant de la carte, sur la face. Donc effectivement, en tournoi, potentiellement tu peux pas tricher, quoi. Mais ce qu'expliquait Fenduel aussi, c'est que quelque part, comme t'as la liste des cartes de ton deck, il disait, il avait entendu une interview de Garfield, et moi j'ai pas entendu ce passage, où Garfield disait que potentiellement on pourrait tout à fait autoriser dans les tournois à ce qu'il y ait des proxys, donc des cartes photocopiées, à partir du moment où c'est bien une carte qui est dans la decklist, dans la liste
si
du
perdu,
paquet. Quoi.
Si t'as perdu des cartes, par exemple, dans tes decks.
T'as perdu la carte ou elle est
comme
t'as
la liste, effectivement.
Après tout, voilà. Donc, effectivement, il va y avoir, a priori, ils ont prévu tout un système de tournois autour. Alors, ce que j'ai entendu dire, encore une fois, sur une source sur le forum de Trick Track, quelqu'un qui expliquait que les tournois devraient se dérouler de la façon suivante. En gros, chacun vient avec 5 paquets, 5 decks.
5 decks, du coup, ouais.
Tu présentes la liste voilà, à ton adversaire, et lui, il peut dire j'écarte tel paquet. Et après, alors, j'ai pas très bien compris, après, en gros, je crois que tu dois jouer les 4, ou je sais plus si t'en choisis un, et puis, tant qu'il gagne, tu dois le garder, et si tu perds, tu peux en prendre un autre, je sais plus, enfin, un truc comme ça, bon.
Ok.
Mais du coup, on voit avec ce principe-là que le metagame, il va toujours exister quand même. C'est-à-dire que les joueurs, ils vont quand même apprendre la liste des cartes, pour analyser les decklists en face, analyser les combos qui peuvent résulter de ça, et en fonction de ça, peut-être choisir le deck le plus adapté parmi les leurs. Alors évidemment, j'imagine que l'autre fait la même chose en face. Hein, bon. et du coup, essayer de trouver la réponse adaptée, quoi.
Ouais, ça, c'est vraiment l'aspect tournoi compétition, quoi.
Ouais, mais du coup, ils ont bien prévu d'en faire, malgré ce que, et là encore, je renvoie à ce que disait Fenduel, ce que pouvait dire Richard Garfield, qu'il avait senti un peu Magic lui échapper avec tout, et le metagame, et les compétitions, quoi.
Bah, après, Magic, il y avait tout le côté spéculation aussi. Alors, ça veut pas dire qu'il n'y en aura pas sur des decks particuliers, mais.
C'est ça, ouais, c'est
possible. Il y avait quand même des grosses spéculations sur les cartes Magic, quoi.
C'est clair.
Au-delà de
Lotus noir.
Ouais.
Ouais. Après, je pense que, enfin, clairement, c'est un jeu que vont s'approprier les joueurs, c'est obligé. Enfin, il va y avoir, si c'est pas prévu, il y aura forcément des compétitions en scellé. Ce qu'on appelle le scellé, en gros, c'est alors à Magic, c'était.
T'avais des boosters et tu faisais ton deck sur place, quoi.
C'est ça, exactement. T'avais des boosters et t'as un système de draft. Tu ouvres un booster, tu prends une carte dedans, tu passes le reste à un voisin, etc., etc. Et tu construisais ton deck à la volée comme ça. Là, je suis sûr qu'il va y avoir des compétitions scellées. T'arrives, on te file 3 decks, tout nouveau, et puis paf,
tu joues
avec,
lequel,
quoi. Ouais. Enfin, c'est obligé, quoi.
Ah ouais, je pense. C'est encore plus adapté. Enfin, c'est plus immédiat qu'à Magic, quoi. T'as même pas besoin de drafter.
Exactement, ouais.
C'est parti, quoi.
Ouais. Et puis, comme je disais tout à l'heure, le deck building, je suis certain qu'il y en a qui vont s'y essayer. Alors, ça risque de faire des trucs bien cheatés, hein, mais, mais voilà, je pense qu'il y en a qui vont le faire. Et puis je suis certain aussi qu'il va y avoir des variantes. Enfin, aujourd'hui c'est un jeu qui est annoncé pour deux joueurs, mais Magic c'était pareil, c'était un jeu pour deux joueurs. Mais moi j'ai joué avec des équipe, variantes. Ouais. Voilà, c'était je sais plus, il y avait l'empereur, il y avait je sais plus ce qu'il y avait. Enfin, il y avait pas tout vampire aussi, je sais plus. Enfin bref, ça avait des noms quoi.
Bah après oui, la communauté, c'était beaucoup de choses qui étaient proposées par la communauté directement quoi.
C'est ça exactement.
Pas de variante officielle.
Avec des adaptations du coup forcément des règles qui vont avec quoi. Voilà un petit peu en tout cas pour mon ressenti. Moi c'est vraiment un jeu que j'ai vraiment beaucoup apprécié. J'ai pas eu l'occasion de creuser les decks avec lesquels j'ai joué. Je me suis plutôt amusé à papillonner en fait avec les différents decks que j'ai réussi à me procurer. C'est intéressant de découvrir le truc et de se lancer comme ça dans la partie un peu à l'aveugle et de voir un peu tu vois tu sens tout de suite, il y a certaines cartes, tu sens que ah ce truc là il faut que j'arrive à faire tel truc, tu vois, et tu cherches les cartes qui vont te permettre de le faire, et tu sens que forcément avec des cartes comme ça qui sont orientées tu vas pouvoir, en creusant un peu les ressources de ton deck, de ton paquet, sur d'autres parties t'arranger pour que ça vienne correctement quoi, et un peu arranger tes effets de façon à ce que t'arrives à faire ce que t'as envie de faire quoi. C'est clairement le genre de jeu dans lequel tu peux t'amuser à essayer de faire des coups quoi. Bref, moi j'ai vraiment bien aimé.
Ouais, moi j'ai très envie de l'essayer aussi.
Ouais. Et alors a priori, donc ils annoncent ça pour le dernier trimestre. Je sais pas si ça va sortir à Essen. Il y a des chances quand même que ce soit en avant-première à Essen, à mon avis. Ça serait dommage pour eux de rater ce coup-là. Je pense que ça a quand même une bonne tête de vainqueur sur un paquet de prix à l'avenir. Ne serait-ce que pour le côté innovant, tu vois. Enfin, le côté innovant du jeu unique.
Ouais.
Et puis le jeu franchement il est pas du tout inintéressant. Il y a vraiment du coup je suis pas trop rentré dans les détails mécaniques, mais il y a vraiment des choses nouvelles dans des il y a des petits twists qui ont été faits par rapport à d'autres types de jeux. J'ai parlé pas mal de l'ambre parce que c'est le truc principal. Mais ne serait-ce que toi de devoir forger sa clé au début de tour, ça peut créer de retournements de situation pendant le tour adverse qui sont énormes quoi. Et comme les cartes sont toutes globalement assez puissantes, t'as vraiment des retournements de situation qui sont possibles. Après, un deck plus fort qu'un autre, il va quand même gagner plus souvent quoi.
Oui, c'est sûr.
Et c'est surtout, je trouve, un jeu qui fait se poser un tas de questions. Outre le fait donc ça ouvre une voie avec la gamme donc qui doit être créée donc par FFG Unique Game avec Avenir Discover Lands Unknown, je crois que ça s'appelle.
Ouais. Les terres perdues, ouais, un truc comme ça.
Terre inconnue, on
peut pas. Terre inconnue, les terres inconnues, c'est ça.
Ouais. Et alors là, du coup, qui est un jeu plutôt d'exploration, survie, si je dis pas de bêtises, coopératif, non?
Oui.
Bah, où en gros, le monde, votre monde, en gros, sera unique, si j'ai bien compris. Il y a de l'exploration, mais vous allez découvrir des tuiles qui, elles, seront uniques. Et même les personnages aussi seront.
Certains personnages seront uniques, dire,
ouais. L'agencement de tout ça est unique.
Voilà. C'est ça.
Donc à côté de ça, il y a le concept même des paquets uniques qui fait se poser un tas de questions sur les algorithmes qui sont derrière. Enfin, ça va être assez passionnant. Petite info quand même, j'entends donc ils expliquaient que il y a un algorithme qui génère tout ça, et cet algorithme-là, en fait, il est remis à zéro pour chaque langue. Donc
potentiellement le même deck en français qu'en anglais, quoi.
Oui, alors s'ils ont fait les choses bien, c'est très peu probable en fait. C'est aussi probable d'avoir un même deck en anglais et en français que deux fois le même deck en anglais, en gros. S'ils l'ont fait un peu moins bien, en gros, si l'algo il part du même point, et ben globalement, ils risquent de créer les mêmes decks. Mais bon, j'imagine qu'ils ont fait ça bien. Un algorithme, ça reste un truc informatique, donc bon, et l'aléatoire en informatique, c'est pas non plus c'est pas si aléatoire que ça quoi. Donc, bon. Et moi ça m'a fait poser aussi une autre question, c'est en plus sur l'aspect marketing du truc. Je sais pas ce que t'en penses, mais au final je trouve que ça s'inscrit complètement dans la veine d'aujourd'hui, c'est à dire que on a une dynamique qui est complètement consumériste, où il y a beaucoup beaucoup de sorties, les joueurs globalement, et je me vise, hein, on joue à beaucoup de jeux différents, et finalement on sent que quelque part Keyforge, ça prend le contre-pied en disant bah voilà, regardez, là on vous propose un jeu,
vous n'avez pas besoin de collectionner 30 000 cartes pour faire un deck.
Voilà, c'est ça. Tu vois, et c'est un jeu que vous allez pouvoir explorer avec plein de paquets différents. Vous allez pouvoir explorer plein de choses différentes, tu vois. Sauf que ça revient quand même au fait d'acheter plein de decks, tu vois.
Oui, tout à fait.
Tu vois ce que je veux dire ?
Ah ouais.
J'ai l'impression que quelque part, en fait, on cherche à absorber, enfin, à attraper le joueur, lui dire, bon, arrête de regarder les 30 sorties qui viennent, prends plutôt 30 decks de Keyforge, tu vois un peu ce que je veux dire?
Ouais, je vois ce que tu veux dire, mais en même temps, si tu tombes pas dans, c'est vrai que, bon, d'un point de vue marketing, ils ont intérêt, mais après, si tu tombes pas dans ce piège-là, je pense que c'est quand même moins, c'est moins tentant que dans Magic. Parce que dans Magic, comme t'optimisais à la carte près, t'étais soit tu achetais des tonnes et des tonnes de boosters pour espérer tomber sur la carte, soit t'allais trouver la carte sur les ventes d'occasion à des prix démesurés. Et les gros joueurs de Magic, hein, moi j'étais pas un très gros joueur de Magic, mais je connais des amis qui ont dépensé mais des fortunes et des fortunes. Là, tu peux te dire, bon, bah effectivement, je vais acheter un deck pour essayer un petit peu, si ça me plaît, je vais en acheter 2, 3, 4 autres. Tu vas pas avoir besoin d'avoir une bibliothèque de cartes énorme pour faire les decks les plus puissants possibles. Ce côté aléatoire fait que tu te dis, bon, bah j'en ai 3, 4, j'ai déjà bien les connaître avant d'en essayer un autre, et puis si j'en essaye un autre, après tu peux aussi éventuellement te les échanger, des decks entiers, etc. Je sais pas, je suis d'accord, oui, c'est un des pièges, et je pense que c'est un des objectifs marketing, mais je pense que c'est moins, c'est peut-être un peu moins vicieux que Magic.
Que Magic, moi, je suis d'accord que c'est moins vicieux que Magic, sauf que du coup le public est quand même plus large.
Oui. Oui, c'est vrai que ça.
Tu vois, parce que bon, j'ai dit le public visé, j'ai dit c'est l'ancien jeu. C'est pas que l'ancien joueur de Magic qui veut plus passer du temps à deck builder. Hein. C'est aussi un public plus large qui a envie de découvrir un jeu qui est quand même vachement dynamique. Quand on dit un quart d'heure à trois quarts d'heure la partie, oui, ça tient là-dedans. Ça peut durer un peu plus longtemps parfois, mais globalement ça tient là-dedans. Et les règles sont pas très compliquées, hein, ça je l'ai pas dit, mais les règles, enfin il y a un quick start là qui tient en un recto verso. Bon, c'est écrit petit quand même, c'est genre les 4 pages, mais avec des exemples et tout, et vraiment t'as compris le jeu avec ça, quoi. Après, il y a tous les mots clés à connaître. Bon, à la limite, les mots clés, tu découvres le paquet, tu prends le glossaire à côté, c'est bon, quoi, tu vois. C'est vraiment accessible, quoi, par rapport à Magic qui avait le système de pile qui était un petit peu compliqué, qui a des phases un peu plus découpées, tu vois. Non, c'est plus accessible.
C'est plus fluide, plus simple dans les règles. Oui. C'est vrai que Magic, des fois, déjà de lire les règles, c'était c'était assez dense. Hein.
Dans les starters, là, le truc tout petit, là.
ouais, j'avais ça, ouais, j'avais un starter. J'ai encore les cartes et je dois encore avoir la règle du starter. Écrit en un petit c'était un petit format du coup un peu plus grand qu'un paquet de cartes quand même, en noir et blanc, c'était un peu austère, ouais, mais bon,
c'était la vieille époque,
c'était une autre période,
ouais. Du coup, je vais refaire la fiche signalétique, juste encore 2-3 petites bricoles, mais je vais rebondir sur la fiche signalétique. Je vous ai parlé de Keyforge Call of Archons, un jeu de Richard Garfield, édité par FFG, à sortir prochainement, dernier trimestre de cette année, avec beaucoup d'illustrateurs aux commandes, qui se vend sous la forme soit d'un starter kit à environ 40 euros. Donc le starter kit, en fait, il contient deux decks uniques, deux decks qui servent à l'initiation, donc qui sont eux toujours les mêmes dans tous les starter kits, et les pions, les quelques cartes qui sont des espèces de tokens, en fait, voilà, qui servent dans le jeu, quoi, et l'ambre, voilà, en gros ça contient le matériel pour jouer ensuite avec tous les decks que tu veux, quoi. Sachant que moi je me suis même pas imprimé tous ces trucs là quoi, j'ai pris des pions, des machins, voilà, j'ai fait à la mode de Quentin Girard, pour reprendre votre expression, que j'ai trouvé absolument génial. Voilà, ça se fait quoi. C'est sûr c'est moins joli, mais bon, ça se fait. C'est pour deux joueurs, annoncé à partir de 14 ans pour des parties de 15 à 45 minutes. La sortie normalement devrait être internationale, si j'ai bien compris. À mon avis, s'il y a des previews en
déjà maintenant,
Ison, ouais, il y a des chances que ce soit que en anglais.
Ah oui.
Et je pense que je prendrai pas en anglais quand même, parce que je suis pas super fluent. Et du coup, on a eu quelques hésitations sur certaines cartes à coup de, tu sais, des petits mots anglais là, les up, les machins, tu sais, les petits trucs, oui, qui des fois te font prendre un sens ou l'autre, quoi. Et toi, à cause de petits détails comme ça, je pense que j'attendrai une version française. Voilà. Et si vous voulez jouer directement acheter des decks, bon bah comme j'ai dit, oui c'est possible quoi. Soit vous empruntez, soit vous jouez avec quelqu'un qui a le starter kit et le matériel qui va bien, soit bah le matériel vous le
peut être remplacé,
fabriqué, ouais, c'est remplaçable quoi. Ça c'est moins joli, voilà, c'est sûr. Bon.
Très bien.
Voilà. Et ben bah, du coup on va passer à Tréfuté alors.
Oui. Ça va aller un petit peu plus vite, je pense qu'il y a un petit peu moins de choses à dire. Alors, Tréfuté, ou Gens Schon Clever dans sa version originale, donc c'est un jeu allemand, hein, que vous n'auriez pas remarqué. C'est un jeu de Wolfgang Warsch. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Wolfgang Warsch, c'est le nouveau Mozart du jeu de société. c'est un jeune homme assez agaçant, parce que je crois qu'il est biologiste moléculaire, quoi. Donc déjà, c'est une grosse tête. Et bah, cette année, il avait, entre le Spiel et le Kennerspiel, il avait trois jeux nommés. Deux au Kennerspiel.
C'est fort.
Donc il avait Tréfuté, que je vous présente, qui était nommé au Kennerspiel. Il avait dit Kaxalber von Kedlingburg, qui a gagné. Je sais plus quelle est la traduction française, quelle va être la traduction française.
Les charlatans, je crois.
Les charlatans de
Kedlingburg.
De
machin, là.
Ouais.
C'est ça.
Donc c'est deux jeux nommés au Kennerspiel, deux jeux édités par Schmidt, et un des deux qui a gagné du coup. Et il avait un jeu aussi au Spiel qui a fait grand bruit, qui est The Mind, donc un jeu relativement original. Donc voilà, c'est un auteur, je pense, à surveiller ces prochains temps, parce que il s'est lancé il y a pas si longtemps. Il a déjà beaucoup de jeux qui ont défrayé la chronique.
Oui, il a fait aussi Illusion, qui est aussi un petit jeu là, qui est distribué chez Oya et qui est j'ai pas tout bien saisi en fait comment ça se jouait, mais en gros on a des cartes avec des figures avec des quatre couleurs qui sont un peu mélangées dessus, et il faut réussir à deviner quelle est la couleur la plus présente. Et évidemment c'est pas si simple que ça peut en avoir l'air quoi. Donc plutôt aussi un peu bizarre comme jeu quoi.
Ouais. Donc on va s'intéresser à Tréfuté aujourd'hui. Donc je l'ai dit, c'est édité par Schmidt. C'est illustré par personne, j'ai pas trouvé l'info, mais vous verrez que en fait il y a pas d'illustration vraiment dans le jeu, hein.
On est revenu, c'est pas sympa pour celui qui l'a fait quand même.
Ouais, mais en fait c'est pas vraiment de l'illustration, si tu veux, il y a un peu d'infographie, il y a de la mise en page, mais je suis pas sûr qu'il y a aucune illustration, il y a pas de dessin, il y a rien, enfin c'est la photo de l'affiche, enfin la couverture c'est la photo de l'affiche et des dés. Donc c'est du Schmidt quoi, c'est l'austérité un peu allemande. Donc voilà, il y a personne crédité à l'illustration. C'est pour 1 à 4 joueurs à partir de 8-10 ans pour des parties de 30 minutes environ. Donc le principe c'est quoi? C'est un roll and write. Voilà, donc la mode.
T'aimes bien ça toi?
Ouais, j'ai fait mon coming out l'année dernière en disant que j'aimais bien les roll and write. Donc pour la rentrée, je vous parle d'un roll and write. Donc c'est un roll and write plutôt un peu plus velu que la moyenne, avec pas mal de possibilités de combos, et sans aucune thématique apparente. On est revenu vraiment à la nature du roll and write en mode Yahtzee, Yams, très très peu thématisé en fait, ou pas thématisé du tout. Vous pouvez refaire la fiche sur Excel sans problème quoi, enfin il n'y a pas besoin de d'habillage.
C'est encore le point Quentin Girard, c'est ça.
C'est ça. Donc comment ça se passe? C'est assez simple, comme dans un roll and write, chacun a une fiche devant lui et il y a 6 dés de 6, assez classique. Chaque dé a une couleur différente. Il y a un dé jaune, un dé bleu, un dé vert, un dé orange, un dé violet et un dé blanc. 6 couleurs. Sur la fiche de score, vous allez avoir 5 zones en fait à cocher ou à remplir. Et les 5 zones correspondent aux 5 couleurs de dés qui sont bleu, vert, orange et violet. Le dé blanc étant un dé un peu joker qui peut être utilisé dans n'importe quelle zone.
D'accord.
Chaque zone en fait va rapporter des points et va avoir une façon différente de scorer et d'être remplie. Donc ça c'est ce que vous allez remplir de manière assez simple. À votre tour de jeu, vous allez lancer les 6 dés. Vous allez en choisir un que vous allez jouer en fait, avec lequel vous allez jouer. Vous allez éliminer, en tout cas mettre de côté tous les dés qui ont une valeur inférieure aux dés que vous allez jouer. Puis vous allez relancer tous les dés restants, choisir un dé, et vous allez faire ça jusqu'à que vous ayez choisi 3 dés, ou jusqu'à que vous ayez éliminé tous les autres dés. Donc en fonction de vos lancers, des fois vous allez jouer que 2 dés parce que vous avez pris des hautes valeurs et que du coup tous les autres dés ont été mis de côté. Donc ça c'est quand vous êtes joueur actif, et les joueurs passifs, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas lancé les dés à ce tour-là, vont pouvoir choisir d'utiliser un dé parmi ceux qui ont été écartés. Et on va jouer comme ça, chacun son tour, jusqu'à avoir fait 4 tours à 4 joueurs, 5 tours à 3 et 6 tours à 1 ou 2 joueurs. Comme à 4 joueurs, on va être plus de fois joueur passif, on va jouer plus de dés en tant que joueur passif. On équilibre en augmentant le nombre de tours quand on est moins de joueurs. Donc ça se passe comme ça. Donc dans chaque zone, je vais pas détailler les zones, mais soit on coche, soit on met la valeur du dé. D'accord. Pour faire simple, dans les jaunes, je vais expliquer vite fait parce que c'est rapide. Dans les jaunes, c'est un quadrillage, d'accord, avec des valeurs différentes. Faut cocher des lignes ou des colonnes. Les lignes vous apportant des bonus et les colonnes des points. Dans la zone bleue, c'est pareil, c'est un peu le même principe, sauf que là, en fait, la zone bleue, c'est la plus particulière. Il va falloir cocher l'addition du dé bleu et du dé blanc. On n'utilise qu'un seul des deux dés, d'accord ? Je vais utiliser le dé bleu, par exemple, et je l'additionne au dé blanc, peu importe où il est. S'il a déjà été pris, s'il est écarté, etc. Le dé bleu est toujours additionné au dé blanc dans la zone bleue. Et donc là, c'est pareil. En fait, les lignes et les colonnes vont vous apporter des bonus, et le nombre de cases cochées dans la grille va vous faire un nombre de points. D'accord. Ensuite, on a la zone verte qui fonctionne pareil. Le nombre de cases cochées va vous faire un nombre de points particulier. Et en fait, là, c'est que la première case cochée, le dé doit être supérieur à 1, puis la deuxième, le dé doit être supérieur à 2, et ainsi de suite, jusqu'à supérieur à 5, et après ça recommence, supérieur à 1 jusqu'à 6. En gros, faut des dés de plus en plus forts. À un moment, ça recommence à 1 et nouveau des dés de plus en plus forts. Et en fait, les dés orange, c'est assez simple, on met directement, c'est une ligne aussi, on met la valeur du dé, et les points obtenus, ça va être la somme de la valeur de tous les dés qu'on a mis dans la ligne. Et les cases violettes, c'est exactement la même chose, mais les dés devront être mis de manière croissante, et le 6 réinitialise en fait l'ordonnancement des dés. Bon.
En gros, tu as des systèmes de scoring différents, enfin plus ou moins différents sur chaque couleur.
C'est
quoi.
Ça.
Et sauf qu'en plus, tu as des bonus.
C'est ça. Donc dans toutes les couleurs, tu as des bonus en fait. Donc dans les jaunes et les blancs, c'est assez simple, c'est les lignes ou les colonnes. Et dans les trois autres, comme c'est une ligne, c'est au bout d'un certain nombre de cases, tu remplis toujours de la gauche vers la droite. Au bout d'un certain nombre de cases, tu vas avoir des bonus. Les bonus, quels sont-ils ? Il y a déjà des bonus de base que tu vas pouvoir utiliser, c'est-à-dire le relancer et le plus 1. Donc le relancer, c'est simple. En fait, en haut de ta fiche, tu vas avoir un nombre de cases relancées. Tu vas les entourer à chaque fois que tu vas gagner un bonus, et tu vas les cocher quand tu l'utilises. Donc relancer, c'est simple, c'est quand tu as fait un lancer de dé que ça te plaît pas, tu coches une case relancée que tu as au préalable.
Tu fais pas tout de suite quoi.
Non, en fait, il faut que tu les gagnes avant de pouvoir les faire, les bonus.
Ouais, d'accord.
Donc relancer, c'est le jet te plaît pas, tu peux relancer les dés. Le plus 1, en fait, c'est une fois que tu as utilisé tes dés, ou quand tu es le joueur passif, ça te permet d'utiliser un dé n'importe où, soit un dé qui a été mis de côté, soit un dé que tu as déjà utilisé. Et quand tu es joueur passif, c'est particulièrement intéressant parce que tu peux utiliser un dé que le joueur actif a utilisé, que normalement tu peux pas utiliser. Donc ça, le plus 1, c'est un petit bonus intéressant. Et après, tu as des bonus qui sont simplement, je vais cocher une case en plus dans la zone verte, ou je vais marquer un 6 dans la zone violette, ou je vais cocher une case dans la zone bleue. Et donc ça va te permettre de cocher des cases que tu veux, c'est des bonus qui vont te permettre de chaîner en fait. Parce que au bout d'un moment, quand tu commences à remplir les choses, tu vas pouvoir activer un bonus qui va te permettre de cocher une case, qui va activer un autre bonus, qui va te permettre de cocher une case, etc. Donc pour optimiser en fait le nombre de points et ta victoire, il va falloir essayer de déclencher le plus de bonus possible.
Ouais, c'est vraiment le truc qui fait enfin qui fait le tournant du jeu quoi. C'est les bonus quoi. Plus tu vas activer de bonus,
c'est les bonus et les combos. Ouais.
Plus tu vas enchaîner quoi.
C'est ça. Alors on pourrait avoir envie de remplir à fond un type de couleur ou deux, trois types de couleurs quoi, d'abandonner complètement certains pour vraiment déclencher tous les bonus d'un truc. Mais il y a un système un peu malin à la Knizia, c'est-à-dire que il y a un bonus qui est le bonus renard en fait. Tu peux activer des renards, il y a un renard disponible dans chacune des cases. Et en fait les renards à la fin, chaque renard activé va te rapporter autant de points que la zone où tu auras le moins scoré. Donc
d'accord.
Si t'as fait 4 zones à fond et que la 5ème t'as rien fait et que t'as activé des renards, bah les renards voudront 4 fois 0 quoi.
D'accord. Et tu peux squeezer le renard, c'est bien ou... enfin c'est faisable ou pas?
C'est faisable, mais en fait c'est souvent ce qui te fait faire beaucoup de points, parce que imaginons t'as réussi à équilibrer un peu et faire 20 points dans chaque une vingtaine de points dans chaque catégorie. Si t'as activé 3 renards, ça va te faire 60 points,
ça fait 60 points
ce qui est assez énorme, parce que c'est en gros au maximum dans chaque zone tu vas faire 50-60 points, donc ça te fait autant de points qu'une zone supplémentaire si tu veux. Et encore 50-60 points sur une zone, c'est énorme, parce que c'est vraiment que tu l'as fait à fond. Donc c'est ça qui est intéressant en fait, c'est que tu vas avoir un juste équilibre entre faut que j'avance suffisamment les zones pour déclencher les bonus, mais en même temps faut que j'essaye d'avancer un peu toutes les zones pour faire scorer les renards. Les renards étant des bonus, sur les zones, en fait, faut souvent cocher quand même pas mal de choses ou des trucs très spécifiques pour activer les renards. Donc, t'as ce double dilemme, en fait, de faut que j'en coche beaucoup pour activer les renards, mais en même temps, si j'active les renards sans scorer dans toutes les types de cases, ça va pas marcher non plus. Mmh. Donc voilà, là, je suis allé assez dans le détail de l'explication, mais en gros, pour le comparer avec d'autres Roll and Write, alors il y a un article assez intéressant justement qui parle du jeu sur Ludovox, on mettra le lien dans le billet, qui parle notamment de son absence de thème par rapport à d'autres Roll and Write plus récents en fait. On a vu que les Roll and Write revenaient pas mal en force ces derniers temps, et on a vu aussi qu'il y avait des gros efforts justement pour thématiser un peu ces jeux. J'ai parlé de Welcome notamment, qui était très bien thématisé, et on voit justement qu'il y a un effort sur les Roll and Write qui était souvent assez faible en thématique, et ce jeu là il a pris le contre-pied de ça. Il est complètement
il n'a pas de thème
à part
il revient aux sources.
C'est ça, part les petites têtes de renard qu'il y a dessus, mais est-ce que ça suffit pour faire
un thème? C'est ce qui le rend velu, c'est les poils du renard.
C'est ça, c'est tout à fait ça.
T'as un papa, hein.
Bon, quand on regarde un peu la gamme de jeux de Schmitt, ils sont pas non plus connus pour l'immersion thématique de leurs jeux. Hein. Ils ont plusieurs Roll and Write qui sont très bons, mais sans thématique. Hein. On pense à Encore, dont on vous a déjà un peu parlé, qui est un très bon jeu où on coche des cases colorées, il n'y a pas de thème. Mais les mécaniques sont toujours relativement intéressantes et plutôt bonnes. Donc les trucs plutôt malins du jeu, c'est les différents scoring là, c'est assez intéressant. Le système de combo aussi qui permet de faire des chaînages qui sont assez jouissifs quand tu te mets à te cocher une case qui en coche une autre, qui en coche une autre, qui en coche une autre, sachant que tu peux en cocher normalement que 3 par tour parce que tu utilises que 3 dés. Quand tu arrives à enchaîner des trucs qui t'en font cocher 3 ou 4, tu te dis waouh, j'ai été bon quoi.
D'accord.
J'ai bien préparé le truc. Et puis la règle des renards à la Knizia un peu, c'est-à-dire je score autant que mon moins bon score sur l'ensemble des zones. Voilà, c'est Knizia aimait bien utiliser ça, notamment dans Tigre et Euphrate et dans pas mal d'autres jeux, je crois. Ça te force en fait à pas.
C'est un truc qui marche bien en général.
Ouais, c'est ça.
C'est clair. Enfin, en tout cas, quand tu veux créer un jeu dans lequel tu veux que les joueurs explorent entre guillemets toutes les facettes de scoring, oui, c'est la meilleure solution. Enfin, je pense en game design, ça doit être l'une des meilleures solutions.
Tout à fait. Après, ce qu'on peut reprocher un peu, c'est l'absence complète de thème, même si honnêtement, c'est plus, je pense, un filler que tu vas faire entre deux jeux un peu plus gros, parce que même si c'est un petit peu plus, on va dire, ça demande un peu plus de réflexion qu'un Roll and Write plus accessible, c'est quand même quelque chose qui se joue facilement, il n'y a pas trop de règles, enfin, c'est vite assimilé.
Ouais, à part dans Welcome, moi je trouve pas non plus que les thèmes, tu vois, au final se ressentent tant que ça, quoi.
Non, il n'y a pas, effectivement, ça, tu les ressens pas, mais il y a un effort d'habillage, il y a un effort de, quand même, d'immersion.
Oui, voilà. D'accord, dans l'habillage, oui, je suis d'accord. Bah, du coup, c'est un peu faiblard.
Voilà, au niveau du matos, de l'ergonomie, et c'est l'efficacité allemande, hein, c'est du Schmitt, il y a les 6 dés, il y a un bloc de fiches, il y a 4 feutres. une petite boîte.
Et voilà.
Voilà, la petite boîte, dedans, il y a un petit, une petite Réos, en fait, avec un plateau d'argent dessiné. Alors, voilà, pareil, what the fuck, pourquoi un plateau d'argent? Mais en fait, les dés que tu n'utilises pas, tu les offres sur un plateau d'argent aux autres joueurs. Donc voilà, c'est...
Ah, c'est pareil. Il y a une explication quand même.
Mais quel est le rapport avec le renard? Je ne sais pas trop.
Non, c'est juste expression, offrir sur un plateau d'argent. Est-ce que c'est comme ça en allemand?
Bah, je ne sais pas.
On n'offre peut-être pas sur un plateau d'argent.
Bah, vu que c'est un jeu allemand, je pense que si, parce que c'est le plateau d'argent qui est représenté.
Ouais, mais peut-être que dans la version allemande, il n'y est pas. On va demander à notre nouveau chroniqueur qu'on découvrira à la fin du mois, Hammer, qui habite en Allemagne.
Je crois que si, je crois que le plateau d'argent est aussi sur la version allemande.
Ouais, d'accord.
Donc, l'autre point un peu négatif, c'est l'absence complète d'interaction, en fait. C'est pas parce qu'on va chercher des dés que les autres. Moi, ça me dérange pas forcément, surtout pour un filler comme ça, mais effectivement, on va chercher des dés que les autres n'ont pas utilisés, mais c'est pas une interaction à proprement parler. D'ailleurs, dans la variante solo, on fait un tour en joueur actif, donc on sélectionne les dés qu'on veut, et le tour passif, en fait, on jette les 6 dés, on écarte les 3 plus gros et on choisit dans les 3 plus petits. Donc c'est pas vraiment une interaction à proprement parler.
Sur le jeu solo, tu vois, qui fasse une règle comme ça, ça me gêne pas, mais tu peux pas réussir à maîtriser que il faut pas laisser. Attends, parce que
si on peut, je vois ce que tu veux dire, si on peut faire ça finalement, comme on choisit les dés qu'on prend et donc les dés qu'on va jeter et laisser aux autres,
tu laisses forcément, quoi.
Effectivement, si tu vois que je sais pas, un dé en particulier va déclencher une série de combos chez l'autre, effectivement, tu peux ne pas le laisser le prendre pour toi et éviter qu'il y ait cette couleur de dé qui reste sur le plateau pour les autres. Après,
encore faut-il que tu puisses l'utiliser, parce que du coup, si je comprends bien, parfois il y a des dés que tu peux pas utiliser, quoi.
Tout à fait. Et surtout qu'il y a ce système de bonus plus 1, justement, qui est aussi permet aux joueurs de faire ça, c'est-à-dire que le bonus de plus 1 va permettre aux joueurs passifs de prendre un dé que tu avais sélectionné toi, de copier un dé que tu as sélectionné. Donc même si tu l'avais pas écarté, voilà.
Ouais, ça annule la capacité, enfin ça annule finalement quelque part la possibilité d'interaction, quoi.
C'est ça. Au niveau d'interaction, on peut dire qu'il y en a quasiment pas.
Ok, d'accord, très bien, il y en a pas.
Il y en a pas. Très peu. Au niveau des sensations de jeu, comme je sais pas, il y a pas de sensation particulière, si ce n'est que le fait de réussir des combos ou de faire un gros score est jouissif, quoi. En gros, le score, ça va de 100 à plus de 300, hein, pour les plus gros scores. Mmh. Et du coup, il y a ce côté un peu scoring attack qui peut être addictif, quoi. On en fait facilement, même en solo, on en fait facilement plusieurs de suite pour essayer de faire le plus gros score possible.
Ouais, finalement, c'est quand même ça l'originalité du jeu par rapport à d'autres Roll and Write, c'est l'aspect combo. Enfin,
ouais, c'est ça, c'est l'aspect.
Je sais pas si on peut appeler ça de la combo, mais c'est le fait d'enchaîner finalement des coups, c'est le fait de faire des coups en plus quelque part, quoi.
C'est ça.
Le combo, c'est peut-être un peu fort dans le sens où ça crée pas de synergie,
c'est plus des enchaînements, des chaînages. Tu peux en fait préparer une configuration qui fait que quand tu vas avoir la bonne valeur, tu sais que tu vas déclencher un effet qui va en déclencher un autre, qui va en déclencher un autre. Ouais. Donc c'est plus du chaînage, d'action, mais qui est assez,
combo,
assez agréable.
Combo, ça veut pas dire ça en anglais?
Bah si, sûrement. Ouais.
Là, j'ai en train de me dire que j'ai peut-être dit une connerie. Mais bon, je sais pas. C'est parce que je l'entends pas vraiment comme ça. Combo, moi, je l'entends plus vraiment typiquement dans les jeux de cartes. C'est l'association de deux cartes qui, effectivement, tu enchaînes, tu joues l'une après l'autre, mais qui fait un effet cumulatif, quoi, tu vois. Ouais.
C'est un combo, mais c'est pas un combo de cartes. c'est un jeu qui a été nommé au Kennerspiel, mais qui est vraiment plutôt accessible. Hein. Ludovox en parlait dans leur article aussi, c'est que c'est un jeu qui peut jouer en famille, en fait. Il y a pas de, les règles sont plutôt accessibles à tous. Après, effectivement, pour réussir à sortir des gros combos ou faire des gros scores, ça va pas venir tout de suite à un joueur casual, quoi. C'est quelque chose qui se travaille un peu ou qui se ressent un petit peu. Enfin, il y a quelques les enchaînements, ça va pas se comprendre tout de suite. On va comprendre comment on remplit.
L'idée, c'est de savoir à quel moment il faut que tu utilises tes petits bonus que t'as engrangés dans la partie, les relances, les plus 1, tout ça, quoi. Oui. C'est là que peut-être effectivement tu vois pas forcément.
Oui, tout à fait.
Il est conseillé à partir de quel âge déjà,
8 ans sur 8 ans chez Philibert, ouais. À partir de 8 ans.
Peut-être 8, ouais, peut-être que 8 ans, tu vois, c'est peut-être un peu jeune pour faire des gros scores, quoi.
C'est ça. C'est ça, mais bon, pour remplir les grilles, ça marche, quoi.
C'est ça.
Pour choisir un dé et remplir les grilles, ça marche. Donc voilà, c'est accessible, mais pour faire des gros scores, faut quand même un peu se creuser la tête. Donc au niveau du nombre de joueurs, toutes les configurations sont plutôt cool. Enfin, comme il y a très peu d'interaction en fait, de fait que tu joues tout seul ou à 4, en fait, ça procure les mêmes sensations. Hein. C'est pas, il y a aucun déséquilibrage en fonction du nombre de joueurs.
Ouais, même oui, c'est vrai. Enfin, pour toi, il y a si peu d'interactions que même jouer tout seul, c'est pareil.
Bah oui, enfin.
Quasi, quoi.
Sur la partie purement du jeu en lui-même, oui. Après, effectivement, ouais. C'est plus agréable de jouer avec des gens parce que c'est tout le côté. Voilà, t'as des humains à côté de toi et tu peux discuter.
Tu bois pas ta bière tout seul.
Et puis tu peux charrier quand il a choisi un mauvais dé ou quand tu l'as bloqué ou voilà. Mais en termes purement mécaniques, oui, c'est la même chose. C'est vraiment la même chose. Donc ça en fait un très bon jeu solo aussi, ce qui est intéressant parce que je joue à plusieurs, mais ça en fait un très bon jeu solo parce que je sais que il y a certaines personnes qui aiment bien jouer en solo aussi. Moi j'y joue pas mal en solo, mais sur l'appli, il y a une appli Android qui existe. Je vais pas en parler trop parce que je sais pas si Fenduel ou Cyrus voudront vous en parler dans les plateaux numériques.
Apparemment, Fenduel va peut-être en parler. Donc ouais. Effectivement, on va lui laisser.
Faut juste savoir qu'elle est assez basique parce qu'en fait, elle permet juste de jouer tout seul sur son téléphone. Voilà, il y a que le mode solo, mais ça reproduit très bien le mode solo de la boîte de jeu, quoi. Et donc, pour jouer tout seul, plutôt que sortir un papier, des dés et cocher, je joue pas mal sur l'appli.
D'accord.
Il n'y a pas de suite ou d'extension prévue pour le moment. Après, on a vu que sur Encore, Schmitt avait édité des feuilles de couleurs différentes,
voilà, en fait, avec des dispositions
différentes
du coup.
Donc là, sur Trafuté, ça s'y prête peut-être un peu moins. Enfin, c'est moins facile en tout cas. Mais pourquoi pas des agencements différents, des bonus ou des scorings ou voilà, des modules un peu différents.
Les mêmes scorings, mais ils vont changer juste les couleurs.
C'est ça. C'est ça.
Juste pour perturber les joueurs.
Ou l'ordre des bonus. Tu changes juste l'ordre et la disposition des bonus, ça peut
oui,
changer
oui,
un petit peu.
Ça peut changer un petit peu la configuration, j'imagine, pour être un peu plus sérieux, effectivement, que je change les couleurs.
C'est ça. Bon, bah pour résumer, du coup, c'est plutôt un très bon roll and write, hein, même si il y a très peu d'interactions. C'est un roll and write quand même où on maîtrise plutôt bien le côté chance, hein, parce qu'il y a suffisamment de bonus et suffisamment de choix. On peut relancer les dés, on peut choisir les dés, on peut prendre un dé ailleurs, etc. Donc il y a quand même la chance est assez peu présente finalement. C'est vraiment de l'optimisation par rapport à ses lancers et l'utilisation de ses bonus.
Et du coup, j'ai envie de rebondir par rapport à ça parce que j'ai cru lire parfois que des gens trouvaient ça un peu long du coup, parce que il y a des gens qui, enfin, si j'ai bien compris, du coup, tu peux réfléchir pendant un moment à ton tour, ouais.
Ouais, alors.
T'as pas été trop confronté à ça,
non,
toi ?
Non, non. J'ai assez peu joué à 4. J'ai fait 2-3 parties à 4. Ouais. J'ai beaucoup joué à 2 et tout seul en fait. C'est un jeu que ma compagne aime plutôt bien, donc on y joue souvent. Ouais. Et donc, à 2, quand en fait. Sur les premières parties, oui, ça peut être un peu quel dé j'utilise, quel est l'avantage, pourquoi celui-ci plutôt qu'un autre. Mais après, quelques parties, c'est un peu comme beaucoup de jeux, quand on a plusieurs parties dans les pattes, on sait très vite ce qu'on veut avoir. Par rapport aux dés qui sont disponibles, on sait très vite s'il y en a des très intéressants et d'autres moins, et ça va plutôt vite, quoi. Voilà, et bon, le défaut, c'est ceux qui aiment vraiment les jeux où il y a de l'interaction, là, il n'y en a pas, quoi. Il y en a vraiment pas, et puis la thématique est pas très présente.
C'est le cas dans beaucoup de roll and write, quoi.
Oui, tout à fait. C'est un peu propre au genre,
ouais.
Même s'il y a eu des efforts ces derniers temps pour thématiser un peu tout ça.
Ouais, mais effectivement, le côté et interaction et thématique, c'est rarement le truc le plus fort dans ces
roll and write. Tout à fait.
Donc, si je comprends bien, si on aime bien ce genre là, il y a quand même moyen qu'on aime bien ce jeu là, quoi. Ouais. Si on cherche un défi un petit peu plus corsé peut-être que sur les autres.
C'est
quoi.
Ça renouvelle pas le genre du tout au tout, mais voilà, ça offre un défi intéressant Ouais, on peut voir avec l'appli, j'ai vu sur Twitter, je crois, ou sur Facebook, il y a certaines personnes qui postent un peu leur high score, donc il y a un peu des filles sur.
Ah ouais.
Sur ouais, je crois que je me demande si Sébastien Dujardin a pas posté des scores assez impressionnants que je n'ai personnellement pas encore atteint. Faire plus de 250, c'est déjà assez costaud, et je crois qu'il était à plus de 300, quoi, donc c'était je sais pas comment il a fait, mais voilà, ça peut être assez amusant. Donc je vais refaire la fiche signalétique. J'ai vu que tu avais trouvé le nom de l'illustrateur.
J'ai trouvé. BGG me l'a donné.
Ah ok, là j'étais partout sauf sur BGG, mais c'est vrai qu'il n'est pas crédité même dans les règles, en fait.
Ah ouais,
bon, attends, je regarde, je vais peut-être dire une connerie, mais ah si, il est crédité dans les règles quand même. J'avais pas regardé la règle.
T'avais pas bien cherché.
J'avais regardé TricTrac et Philibert, en fait, et j'avais pas trouvé. Okay. Mais il est écrit en tout petit à la fin de la règle, effectivement. Donc on va rattraper l'erreur de la fiche analytique du début. C'est très futé en français. Un jeu de Wolfgang Warsch, édité par Schmidt, illustré du coup par Leon Schiffer. Alors vous verrez, c'est illustré par Leon Schiffer. Ça se trouve, il a dessiné la tête de renard, en fait. Il y a quand même assez peu d'illustrations.
Il a dû faire le graphisme, sûrement, j'imagine.
Quoi. Oui, c'est ça. Il a dû faire toute la partie infographiste sur les illustrations de la règle, etc. aussi.
Est-ce que c'est au moins fonctionnel? Ça marche bien. C'est clair, c'est lisible.
La règle est très bien écrite, c'est très clair.
La grille, tu sais.
Oui, tout à fait. C'est plutôt agréable. Ouais. C'est un peu.
Parce que si on veut faire ce genre de parallèle, j'ai entendu dire, enfin j'ai pas joué, mais Château de Bourgogne, le jeu de dés, apparemment, tu sais, il y a des couleurs qui sont pas forcément bien choisies, voilà, donc du coup, ça porte un peu à confusion, voilà. Donc,
non, là, ça.
Moi, tu vois, c'est clair, c'est déjà pas mal.
Là, ça marche bien. Là, ça marche bien, c'est plutôt clair. Après, je sais pas pour les daltoniens si, voilà, il y a du bleu, du vert, du violet, donc c'est pas forcément
super daltonien friendly. Ouais.
C'est plutôt bien fait. Donc merci Léon Schiffer. C'est pour 1 à 4 joueurs à partir de 8 ans pour des parties d'environ 30 minutes. Ça a été nommé au Kennerspiel. Et comme souvent, en fait, c'est en rupture de stock chez Philibert.
C'est plus dispo chez Philibert.
Il n'était même pas encore. Comme les trois quarts des jeux qu'on vous présente. Mais sinon, c'est un petit prix aussi. C'est ça qui est assez sympa. C'est 11,90€ chez Philibert.
Pour atteindre le coup de port, c'est ça.
C'est ça, le petit jeu pour atteindre les 60€. Ça marche bien. Ça marche bien et c'est franchement un bon investissement. Pour 11,90€, il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire avec ça.
Ok. Et ils vendent pas encore de blocs de papier à
Non,
part?
J'ai pas trouvé ça.
Ouais. Ok.
Bon, après, voilà, si vous voulez jouer beaucoup en solo, n'achetez pas le jeu et préférez payer, c'était 2,50€ ou 3€ l'appli Android, hein, plutôt qu'acheter la boîte. Et moi, ce qu'on a fait avec Lely, là, c'est que comme on commence à avoir beaucoup de roll and write, et on a acheté une plastifieuse. Et du coup, on plastifie les grilles et on joue avec des Velleda. Enfin,
des
Velleda, ça évite d'user, surtout ceux où tu joues beaucoup, ça évite d'user.
De tuer des forêts, tout ça, quoi.
C'est ça.
Merci pour ces explications.
Merci à toi. Donc, n'hésitez pas à nous laisser des commentaires sur ce premier épisode de la saison 9. N'hésitez pas non plus à visiter notre page Tipeee si vous voulez nous soutenir, soit mensuellement, soit plus ponctuellement. Les liens et la description sont sur le billet. On vous retrouve le mois prochain. Et en attendant,
jouez bien.